Bonjour à tous, à toutes, à chacun, à chacune. C'est vrai que c'est mieux sans le masque. On le réalise tous les jours. Paul a parlé de chemin connu ou inconnu, de passage biblique connu ou inconnu. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment inconnus, si nous sommes anciens dans la foi. Et c'est vrai que nous revenons moins vers les généalogies que vers d'autres textes. Nous sommes d'accord. Eh bien là, aujourd'hui, je vous propose un texte plus que connu. Et nous allons le lire ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Bon, on va voir si. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un va-t-il oser lever la main en disant qu'il ne connaissait pas ce texte ? Effectivement, ce psaume 23, c'est une vraie ritournelle. Un refrain que nous avons tellement entendu que nous ne savons plus vraiment s'il nous parle encore. Pour moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce psaume, c'est le premier qui me vient à l'esprit lorsque je ne dors plus la nuit et que toutes mes pensées négatives s'entrechoquent. Alors, je remercie David d'avoir écrit ces quelques lignes, car elles me sont bien utiles dans des circonstances nocturnes pour me rappeler de qui je dépends vraiment. Tout à l'heure, après ma mauvaise nuit, je vais me lever plus ou moins reposé. Mais cela, l'Éternel le sait déjà. Comme David l'écrit dans un autre psaume, le psaume 139, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Je vais me lever et l'Éternel le sait déjà. Je dors mal cette nuit. » Et l'Éternel le sait déjà. Et même alors que je commence à me réciter mentalement, l'Éternel est mon berger, l'Éternel sait déjà ce que je vais dire, me dire à moi-même. Et dans le psaume 139, on trouve aussi ce passage. La parole n'est pas encore sur ma langue, que tu la connais déjà entièrement. En fait, je dépends de quelqu'un qui sait déjà tout. Mon berger. Alors, l'Éternel est mon berger. Est-ce que cette image du berger, elle est si originale que ça ? Pas du tout. Dans des hymnes adressés aux dieux ou aux rois, dans les attributs donnés à ses souverains dans les périodes qui précèdent celles de David, le titre de berger apparaît déjà. Et nous pourrions dire aujourd'hui, si nous étions il y a 3000 ans, Emmanuel Macron est notre berger, par exemple. Donc c'est une habitude de nommer les conducteurs des peuples de cette façon-là, en Mésopotamie et en Égypte. Donc David n'invente rien. En termes de métaphore, celle-ci existe antérieurement. Seulement lui, il est bien placé pour l'utiliser parce qu'il sait ce que ça veut dire que d'être berger. Il a pratiqué le métier, il connaît le job, et la suite du psaume va le montrer très clairement. Donc cette image du berger, elle n'est pas très originale. En revanche, ce qui est plus fort dans ce qu'il dit, c'est son affirmation « L'Éternel est mon berger ». Est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous le percevez ? Ou alors on va le dire autrement, « Mon berger, c'est l'Éternel ». L'Éternel est mon berger, alors tellement l'habitude de le dire que... Est-ce que je réalise ce que je suis en train de dire ? Non, mon berger, c'est l'Éternel. Alors, la question qui se pose, c'est ton berger à toi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Je suis suffisamment dans le train et dans le tram pour dire que pour certains, c'est le téléphone portable. C'est clair, mon berger, c'est le téléphone portable. Mon berger, ton berger, c'est quoi ? Ton amoureux, ton amoureuse, un gourou, une star, un intellectuel, un sportif ? En tout cas, David nous dit, mon berger, c'est l'Éternel. Et ce n'est rien moins que l'Éternel qui est mon berger, quand même. Et nous avons tellement l'habitude d'entendre ce texte que nous nous remarquons plus ce que dit David. Moi, comme berger, si je paraphrase, je n'ai pas n'importe qui, c'est l'Éternel, pas moi. C'est bien l'Éternel qui est mon berger, qui dit mieux ? Et parce que c'est lui, conséquence, rien ne me manque. David dit quelque chose de très simple et réaliste dans ce que lui fait vivre le berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Et voyez qu'il y a ici trois temps d'un cycle que le berger imprime au troupeau, la marche, la pâture, le repos. Traduisons, de l'action pour nous, de la nourriture, du repos. Et de fait, il y a un temps pour tout. Un temps pour le mouvement, vous le voyez, il me conduit, il me dirige. Un temps pour reprendre des forces, manger, même si c'est juste suggéré, dans les verts pâturages, me désaltérer dans les eaux paisibles, et un temps pour me reposer. Et c'est le constat très simple de David. Voilà ce que vit un mouton ou une brebis dans un troupeau, voilà de quoi est faite sa vie. Alors de la même manière, voilà ce que je vis en tant que croyant, membre du peuple de Dieu, membre du troupeau. Je suis conduit, je suis nourri, je suis mis au repos. Et voilà ce que je vois de mon côté de brebis ou de mouton, voilà ce que je constate. Bon, fin de l'histoire, tout va bien, rien à ajouter, la vie est belle. L'Éternel est mon berger, bon dimanche. C'est tout de même un petit peu court, quoi. C'est un peu court pour deux raisons que nous allons souligner maintenant. Pour ne pas vivre naïvement notre béatitude de membres du troupeau. C'est un peu court parce que nous avons laissé de côté deux choses, et pas des moindres. Il restaure mon âme, tout d'abord. Restaurer, ce n'est pas se restaurer. Ça, c'est déjà fait au verset qui précède, avec les verts pâturages. La brebis que nous sommes, la brebis que David estime être, a déjà mangé. Donc ça, c'est d'autre chose qu'il s'agit. La version second 21, elle traduit, elle, de cette façon. Il me redonne des forces, dans le sens où cela me permet de restaurer mon état antérieur, de me remettre en état. Et alors, ça m'a forcément fait penser à quelque chose, je ne sais pas si vous êtes fan de gymnastique, je ne suis pas fan, mais de temps en temps, je regarde. Vous savez, en gymnastique, on appelle ce qu'on appelle le moment où l'athlète quitte la barre, les barres parallèles, etc., et repart au sol. On appelle ça le rétablissement. Le rétablissement. Eh bien, selon des commentateurs, ce sens du texte est fort comme ça. C'est-à-dire que quelque part, mon âme est retournée en quelque sorte, comme l'athlète se retourne en retombant sur ses pattes en gymnastique. Le rétablissement. Alors, qu'est-ce que le berger rétablit en plus ? Pas rien. Mon âme, c'est-à-dire mon être intérieur au plus profond. Et on pourrait dire que ce « restaure mon âme » veut dire « je suis refait à neuf » en quelque sorte, « je suis rénové de l'intérieur ». Et ça, c'est la première chose, et c'est déjà pas rien. La deuxième chose à présent, il me conduit. Oui, certes, mais il me conduit où ? Le texte le dit, alors suivant les traductions, c'est dans les sentiers de la vie juste ou sentiers de la justice, ça varie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et parce qu'il est ce qu'il est, l'Éternel, parce qu'il s'appelle ainsi à cause de son nom, il ne peut pas me faire arpenter d'autres sentiers que les sentiers de la justice. Ce serait contre sa nature. À cause de son nom, à cause de ce qu'il est. Et le berger dont parle David ne choisit pas au hasard les sentiers. Il est l'Éternel, par définition, il ne peut pas me conduire ailleurs que dans des sentiers de justice et des sentiers droits, et donc dignes de confiance. Et c'est ça le maître mot. Je peux avoir confiance parce que je ne serai pas amené sur n'importe quel chemin. Et tout ça, ça nous amène à réaliser une chose assez fondamentale, c'est que le berger, en fait, il sait ce qu'il fait. Le berger sait où il va. Le berger sait ce dont j'ai besoin. Le berger a un projet précis pour le troupeau qu'il amène parce qu'il en est responsable. Et bien, de la même manière, on pourrait dire que l'Éternel ne me conduit pas au petit bonheur, la chance. Dans cette alternance de marche, de nourriture et de repos, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a une véritable intention du berger. Une intention. Et ce que je vis comme une banalité, comme semble le vivre, je ne sais pas ce qu'elles en pensent vraiment, les brebis et les moutons d'un troupeau, quand vous les croisez sur la route, c'est tout sauf banal. En fait, Dieu veut que je sois en mouvement, Dieu veut que je me nourrisse, Dieu veut que je me repose et Dieu veut que je me reconstruise de l'intérieur. Et voilà ce que veulent dire ces textes. Et c'est ce que David réalise de la volonté de Dieu, du berger à son égard. Donc, une première leçon pour nous ce matin, c'est que notre berger a vraiment une intention, un plan, une volonté, et il sait où il va, et il sait ce qu'il faut faire. C'est quand même important. Non ? Non ? Si je transpose et que je reprends la métaphore professionnelle, je pourrais dire que le berger est un excellent professionnel. Mais là encore, c'est un peu court, car David va bien plus loin. Ce berger n'est pas simplement un bon professionnel en qui je peux avoir confiance, mais c'est bien plus. Ce berger est plus qu'un berger. Alors j'ai composé dans ma vie quelques chansons, et toute la difficulté quand vous y prenez une composition de chansons, c'est que vous le faites en général plusieurs fois, et quand vous le faites en plusieurs fois, vous perdez le fil de votre projet de départ. C'est le danger. On part sur une chanson, on en écrit une autre que celle qu'on avait prévue au départ. Vous êtes dans un certain état d'esprit, le lundi, vous commencez la chanson, et vous commencez à écrire. Et vous y revenez le mercredi, et parce que vous êtes dans un autre état d'esprit, ou que vous avez de nouvelles idées, vous partez dans une direction légèrement différente et la logique de votre intention de départ, elle change un peu. Mais vous savez quoi ? On dirait que c'est ce qui arrive à David dans ce psaume 23. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que vous êtes de fins observateurs et donc vous êtes aperçu que ce psaume commençait avec « le berger fait ceci, le berger fait cela », il conduit, il dirige, et tout d'un coup, c'est ce « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Et ce « tu » arrive. Il est devenu tout à coup « tu », le « il ». Et David parle du danger ici, l'ombre de la mort. Et dans le danger, ça le rapproche du berger. Le berger est devenu tout d'un coup son vis-à-vis, son intime, son proche. Et face au danger, il saute dans les bras du berger. C'est ce que veut dire ce « tu ». Voilà le texte. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » En fait, David était trop fin compositeur pour se tromper du lundi au mercredi. Mais il nous amène dans une autre dimension dans ce psaume. Et il le fait dans d'autres psaumes aussi. Tout d'un coup, le berger est devenu un ami. Et David va écrire très certainement volontairement, pas comme moi, cette deuxième phase de ce poème, en passant du « il » initial au « tu » dans le couplet suivant. Il me semble que c'est volontairement qu'il le fait et qu'il nous fait passer du statut, parce que nous nous identifions à David et à ce qu'il écrit, il nous fait passer du statut de l'animal assujetti, consentant et finalement reconnaissant, mais il nous fait passer un autre statut qui est le statut d'ami. Et le registre est bien différent. J'avais l'image d'un professionnel en qui je pouvais avoir toute confiance, qui sait où il va, mais il est devenu tu. Et c'est alors que trois dimensions nouvelles arrivent. La première, c'est que, un, je suis rassuré. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est la dimension de l'ami. Deux, je suis accueilli. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Trois, je suis comblé. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est ainsi qu'en fait ce berger devient plus qu'un berger, il devient un ami. C'est important ces dimensions-là. Rassuré tout d'abord. Dans les traductions littérales de ce verset 4, on trouve deux instruments bien utiles au berger. Et moi, quand j'étais petit, j'ai toujours entendu parler de la houlette et du bâton, y compris dans des petits champs. Alors, on va faire un petit peu de description de berger. La houlette, c'est un long bâton qui a un bout recourbé. Il a essentiellement deux rôles. Il permet de conduire le troupeau. Il a un rôle de soin. Ça permet, disent les spécialistes, de ramasser un caillou qui pourrait blesser un agneau ou une brebis, d'écarter le caillou de façon à ne pas provoquer d'accident ou une motte de terre. Ça permet aussi de jeter un caillou pour ramener un agneau vers le troupeau. Là, c'est autre chose. On balance un caillou à côté, hop, l'agneau reçoit le caillou sur sa droite, ça l'effraie, il repart à gauche, là où se situe le troupeau. Ça permet aussi à la houlette d'accrocher une patte arrière d'un agneau pour le soigner. Donc, vous voyez tout le rôle que joue cet instrument qui est la houlette. On va pouvoir accrocher la patte arrière, il n'y aura pas de mouvement violent vis-à-vis de l'agneau, on le couche et on le soigne. Voilà ce à quoi sert une houlette. Et le bâton, c'est un long morceau de bois qui est souvent ferré au bout pour les bergers à l'époque et qui a lui aussi deux fonctions. Il sert d'abord à aider le berger dans sa marche, à lui servir d'appui quand il descend chercher une brebis dans un ravin ou quand il a quelque chose de périlleux à faire pour lui-même. Donc c'est un appui. Et puis ça sert aussi de manière ponctuelle à assurer la défense du troupeau quand le troupeau est menacé. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ça c'est la traduction littérale. Mais la version seconde 21, elle le traduit par les fonctions de ces instruments. Elle traduit en disant ta conduite pour la houlette et ton appui pour le bâton. Voilà ce qui me réconforte. Et derrière cette traduction littérale, on voit bien la fonction de ces instruments dans les mains du berger. Rassuré donc, mais aussi accueilli. Dresser la table, accueillir à sa table, nous savons tous, a une signification toute particulière. C'est d'abord le signe d'une amitié. Et c'est aussi la façon, à l'époque de David, de sceller une alliance. Il y a donc 3000 ans. Quand Dieu nous accueille à sa table, lors de la scène, nous sommes aussi dans le symbole d'une alliance. Et en ce temps de repos, qu'est le repas ? Il faut le souligner, on est dans le temps de la pause, dans un quotidien qui peut être fait d'adversité. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et tu m'accueilles dans une pause, après m'avoir rassuré. Alors, quels sont mes adversaires aujourd'hui ? Ils ne portent pas beaucoup l'épée ou de bouclier, mais est-ce que ce sont des personnes ? Pas forcément. Mes adversaires, ça peut être des soucis, ça peut être des inquiétudes, ça peut être des préoccupations qui ne me laissent pas de repos. Et voilà que vient le temps de la pause, du partage à table. Et voilà que vient le moment du répit où je suis accueilli en face de mes adversaires. Donc accueilli, rassuré, accueilli. Et enfin, comblé. Rassuré, accueilli, comblé. Dans une réception publique au temps de David, vous vous rappelez le verset « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Verser de l'huile sur la tête d'un invité, c'était une façon de lui faire honneur. Et pour David, l'Éternel qui accueille non seulement l'accueil, mais il l'élève aux yeux de tous les invités en lui faisant honneur. Il montre ainsi toute la valeur qu'il lui porte. Et David se sent élevé, accueilli, rassuré, accueilli, élevé. Et ça participe à lui donner ce sentiment d'être comblé, parce que parallèlement à cet honneur qui est fait avec l'onction d'huile sur la tête, il y a le fait de remplir à ras-bord les verres, les coupes, dans une générosité qui en fait s'exprime à travers ça. Ma coupe déborde. C'est-à-dire que ce que dit David à l'Éternel, c'est « Tu n'es pas chiche avec moi, tu me donnes le maximum. » Voilà pourquoi il y a une telle gradation dans ce psaume 23 à partir du moment où David a commencé à dire « Tu ». Il conduisait, il dirigeait, il nourrissait, il restaurait, comme dit dans les sentiers de la justice. « Tu me rassures, tu m'accueilles, tu me combles. » Et alors, ce qui est logique dans cette affaire-là, c'est qu'on n'a pas envie de quitter le lieu. Ça se passe tellement bien. Et quoi de plus logique que de vouloir habiter chez le berger qui est devenu un ami. En fait, le verbe employé, et qui est traduit ici, est un verbe un peu ambigu de l'hébreu, qui veut dire à la fois « revenir et habiter ». Voilà pourquoi vous trouvez dans les traductions quelque chose d'un petit peu emprunté, que « j'habiterai, je reviendrai ». Le verbe veut dire les mêmes choses. Donc voilà pourquoi on trouve souvent les deux dans les traductions. Peu importe. L'important, en fait, c'est que David nous dit une chose forte, c'est qu'il a enfin trouvé son port d'attache. Et on dirait aujourd'hui qu'il a trouvé son lieu, qu'il a trouvé sa place. Et dans un autre psaume, psaume 27, David le dit aussi avec force, hein, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel. » Pourquoi ? Eh bien parce que, retournons au début du psaume, « Je ne manque de rien. » Voilà comment se boucle la boucle du psaume 23. On ne va pas insister beaucoup sur le fait qu'on dit de temps en temps « je reviens, j'habite, je reviendrai, j'habiterai » puisque le verbe hébreu est conjugué, si je puis dire, à ce qu'on appelle l'inaccompli. Ça peut être le présent, quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va venir, quelque chose qui est là déjà. Et donc on peut le traduire de façon diverse. Et ce n'est pas finalement ça qui est le plus important. En conclusion, nous le savons tous, les psaumes sont des expressions très très humaines, la plupart du temps. Ils traduisent parfois jusqu'aux tripes les émotions, la joie, la déception, la colère, le ressentiment, la reconnaissance. Les psaumes traduisent aussi les convictions, les espoirs de leurs auteurs. Et ils accompagnaient les cérémonies, nous le savons bien, et cette poésie hébraïque est un genre tout à fait particulier. Et évidemment, on ne peut pas lire les psaumes comme on lit une épître de Paul. C'est évident. Mais précisément, comme ce même apôtre Paul l'écrit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ce que dit Paul à Timothée. Et si les psaumes figurent bien au sein des écritures, même si c'est un genre particulier, je l'ai déjà dit, je suis persuadé que ça n'est pas pour rien. mettre des mots, comme David le fait sur son expérience et comme d'autres auteurs de psaumes le feront, c'est nous permettre à nous de mettre des mots sur notre expérience. Et à 3000 ans de distance, ce que dit David, en dehors du fait que ça me console la nuit quand je ne dors pas, ça me touche, 3000 ans après. Et voilà pourquoi cette écriture est aussi inspirée de Dieu. Elle dit à la fois ma condition limitée d'homme ou de femme et, malgré tout, la relation forte que je peux avoir avec l'Éternel qui, lui, est l'illimité, le Tout-Puissant. Cette relation personnelle, ce n'est pas celle uniquement du Nouveau Testament. David l'a éprouvée. Et c'est intéressant et rassurant que 3000 ans avant nous, cette relation ait pu exister et qu'il ait pu la traduire dans ce magnifique psaume 23. Amen.